Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Qui parmi vous a réellement pensé la parentalité à venir au sein de son couple? Avez-vous questionné la place de chacun et chacune au sein du foyer? Ou vous êtes-vous laissé porter par le schéma classique « papa travaille et maman reste à la maison » ? Qui s'occupe des enfants ? C'est la question que pose mon invitée du jour, Sophie Adriansen, dans son essai paru en septembre 2023 aux éditions Les Pérégrines, qui est une pépite et que je te conseille de lire dès que possible. Mais avant de te précipiter en librairie, je te propose d'écouter ma conversation avec Sophie. Nous revenons sur son désir d'enfant, sur sa façon d'envisager la famille avant de la fonder et sur l'organisation qui régit son foyer. Sophie nous parle des choix qu'elle a faits avec son conjoint pour l'équilibre de leur famille, mais aussi pour la santé mentale de chacun et chacune. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sophie.
Bonjour Élise.
Bienvenue dans Prenons un café, je suis ravie de te recevoir.
Je suis ravie d'être là.
Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît?
Oui, je suis Sophie Adriansen, je suis écrivaine, romancière, scénariste, autrice de livres pour les enfants et depuis cette rentrée, essayiste également. J'ai écrit à peu près 75 ouvrages, surtout pour la jeunesse mais aussi pour les plus grands.
C'est une belle collection, une belle performance. C'est fou, ça est écrit depuis combien de temps?
Alors depuis presque toujours, mais je suis publiée depuis une quinzaine d'années.
Ouais, donc t'enchaînes quand même pas mal les publications, c'est chouette.
Oui, les publications jeunesse notamment ne sont pas soumises aux mêmes contraintes de rythme qu'en littérature générale. Et puis quand il y a des séries par exemple, il peut facilement y avoir plusieurs titres qui sortent la même année.
Alors moi Sophie, je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café, à savoir est-ce que tu as toujours désiré être mère?
Je vais te faire une réponse de Normande, même si je suis bretonne. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu le début de ma vie où je n'ai pas pensé qu'une autre possibilité existait, parce que je n'imaginais que la stricte reproduction du modèle qui s'offrait à moi. Et donc mes parents avaient eu deux enfants. Et avec une forme de parentalité intensive pour ma mère, puisqu'elle était devenue mère au foyer, alors qu'elle était pharmacienne précédemment. Et à ma naissance, elle a arrêté de travailler pour se consacrer à mon éducation, puis aussi à celle de ma sœur. Donc voilà, intensivité de la parentalité. Ensuite, je me suis dit que ça n'était pas obligatoire, qu'il y avait d'autres possibilités. Et enfin, j'ai eu envie, moi, d'être mère. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je suis passée par la case PMA. Ça a été une des raisons qui m'ont coûté le couple que je formais à l'époque. Et enfin, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, avec qui j'ai eu deux enfants. Je suis mère de deux garçons.
C'est riche comme parcours, cette influence du schéma familial duquel tu es issue. Et à un moment, ce passage finalement complètement en opposition avec ça, de l'aliénation, entre guillemets, mais c'est quand même ça, de ta maman dans ce rôle maternel, à ton opposition en disant bah non, en fait, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. À quel moment de ta vie tu as eu justement cette opposition de te dire non, je ne voudrais pas être mère, c'est pas il n'y a pas que ça dans la vie et c'est pas nécessaire à 100%.
Alors déjà, je suis quelqu'un qui me suis beaucoup construite contre le modèle parental, donc il y avait aussi un rejet des choix qui ont été faits par mes parents. Et puis, j'ai découvert, d'abord le monde du travail, le monde de l'entreprise. Et puis, ensuite, j'ai aussi découvert ce que je voulais vraiment faire de ma vie, à savoir écrire à temps plein, parce que j'ai publié mes deux premiers livres en étant salariée. J'étais dans la finance avant. Et donc, je m'étais dit que la parentalité passant par la case PMA était extrêmement complexe à concilier avec le salariat. Enfin, globalement, si tu fais de la PMA, il faut mettre au courant ton employeur. Et je me disais, là, on touche à un truc très intime. Et puis, par rapport à ma profession artistique, en fait, je me suis dit que ça me remplissait tellement que je n'étais pas sûre d'avoir encore de la place. Il y a un côté hyper égoïste, en fait, dans ce choix de profession et de carrière. Je n'étais pas sûre d'avoir de la place pour de la disponibilité pour quelqu'un d'autre. Il y avait ça aussi. Et tout ça a été rattrapé et balayé par un espèce de truc un peu animal qui doit correspondre aussi à un instinct peut-être de reproduction qui s'est imposé à moi quand j'ai rencontré l'homme avec qui j'ai fait mes enfants.
Parce que avant ça, parce que tu as déjà eu un passage quand même avec donc ton ancien conjoint où la question s'était posée, ces tentatives-là, ces besoins-là d'avoir des enfants à ce moment-là qui ne s'est pas concrétisé, c'était de l'ordre du désir ou de l'ordre de la convention selon toi ?
Je pense que je cherchais à répondre à des injonctions qui étaient multiples et il y avait une injonction très forte au sein de ma famille. Au sein de nos familles, en fait, de la part de nos mères qui voulaient devenir grand-mères. Et puis aussi une injonction forte de la part de mon conjoint qui rêvait de devenir père. Et donc, je n'avais plus de place, moi, par rapport à ces injonctions, pour me demander vraiment ce que je souhaitais. Et quand ces injonctions ont été vraiment proéminentes, je me suis dit, on y va, en fait, on essaye ça. Et c'est quand ça n'a pas marché, que mon couple a volé en éclats, que je me suis dit, je n'ai jamais pris vraiment le temps de me demander comment je me positionnais par rapport à ces injonctions-là.
Ok. Et donc, tu rencontres ton conjoint actuel, le papa de tes enfants. Et là, qu'est-ce qui se passe en toi ? Enfin, c'est un instinct, enfin, tu parles d'instinct, c'est quelque chose qui devient plus fort que tout, ce désir-là, ou ça reste rationalisé avec ta vie professionnelle, ta vie de femme, comment il se situe ce désir-là ?
Alors, c'est rationalisé par une chose, c'est-à-dire que cet homme, quand je le rencontre, il est déjà père. Il a déjà deux enfants qui sont ados. Et j'ai bien compris, en voyant autour de moi les amis qui devenaient parents, j'ai bien compris qu'il y a un changement qui est colossal avec l'arrivée des enfants. Et j'ai bien pris conscience qu'on ne se connaît pas en tant que parent tant qu'on n'a pas d'enfants. Or, lui, il part avec un avantage non négligeable, c'est qu'il est déjà père et que je le vois père. Même s'il n'a pas ses enfants à temps plein, je vois comment il est quand il est avec ses enfants, je vois comment il est quand il est sans ses enfants, différence, je vois comment ses enfants ont été élevés jusque-là. Et donc, je devine quel père il pourrait être si on avait des enfants. Et c'est lui qui en parle, d'abord. C'est lui qui amène le sujet et qui propose de faire de moi une mère, qu'on ait des enfants ensemble, parce qu'il doit bien sentir que ce désir existe quelque part en moi. Donc, à partir du moment où moi, je me suis dit « on y va », c'est tellement évident que, pour te dire, j'ai été enceinte au cycle où je l'ai décidé et ça me paraissait tellement surnaturel après avoir fait de la PMA que je m'en suis pas rendu compte tout de suite pendant plusieurs semaines, tellement ça n'était pas dans les options envisagées. Mais donc, quand j'ai décidé d'y aller, là, j'ai mis de côté tous les éléments un petit peu rationnels que j'avais pu valider avant et qui le concernaient surtout lui. Dans le fait de s'occuper des enfants.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est comme une forme de casting ou d'audition sur la paternité. C'est vrai que quand tu as des enfants avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants, et c'est quand même souvent le cas, on devient parent en couple, mais on ne connaît pas le parent, on ne se connaît déjà pas soi en tant que futur parent, et en tant que, on ne sait pas quel parent on sera et quelles seront nos aspirations, et on ne sait pas en fait en face ce qui va se passer. Donc c'est assez intéressant ce côté... du coup, j'ai déjà observé comment tu te comportais avec tes enfants. Et donc, en fait, cette,
phase-là de toi me convient pour une future parentalité. J'essaye de réfléchir à est-ce qu'on pourrait appliquer ce genre de choses quand on n'a pas d'enfant ? Non, parce que clairement, quand on n'y est pas confronté, c'est pas possible, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas inventer des stages pour avoir de l'observation de ton conjoint ou ta conjointe dans la situation parentale ? Ça pourrait être intéressant, mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est vraiment le cas.
Ce qui n'est pas uniquement positif, c'est-à-dire que ça m'est revenu en boomerang après la naissance de mon premier enfant parce que je me suis rendu compte que j'aurais aimé douter avec quelqu'un, hésiter avec quelqu'un, ne pas savoir quoi faire avec quelqu'un. Et que là... ce qui à la fois me rassurait, son espèce de confiance, son expérience tout simplement, elle venait aussi appuyer sur le syndrome de l'imposteur que je ressentais et ça a créé un décalage. Donc voilà, ça n'est pas seulement plus simple forcément de faire un enfant avec quelqu'un qui en a déjà eu parce que, tu l'as dit, la plupart du temps, on apprend ensemble et là, il y a eu un moment où j'aurais aimé apprendre au même rythme que quelqu'un pour ne pas me sentir vraiment larguée loin derrière.
Oui, en décalage. Parce que toi, tu vivais des choses pour la première fois et pas n'importe quelle chose. Quand même, c'est bouleversant. Et quand la personne en face, c'est pas le cas, même si c'est la première fois avec toi, il a déjà vécu les bouleversements de la parentalité précédemment. Donc, et puis, on sait, enfin... on oublie un petit peu ce que c'est que de devenir parent là pour la première fois quand le temps passe. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué d'être dans l'empathie. Et oui, je vois bien ce syndrome de l'imposteur, comment il peut se manifester. Est-ce que tu avais tendance, par exemple, à sursolliciter son avis sur tes gestes au quotidien ou sur ta façon d'être mère ?
Oui, concrètement, je partais du principe que lui, il savait. Et que moi, je ne savais pas. Et régulièrement, il y avait des petites choses qui venaient me le confirmer. Mais des choses aussi basiques que la première couche, je veux dire, je ne l'ai pas trop serrée parce que j'avais peur de faire mal à mon bébé. Résultat, elle a fui. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais même mettre une couche, je ne sais pas faire. Et donc, c'est lui qui m'a montré. Il a eu besoin de me montrer une seule fois. Et ensuite, c'était bon pour des années de couches.
Ouais. Et pourtant, enfin, c'est ce qui arrive à la plupart des parents qui deviennent parents pour la première fois. Enfin, je veux dire, à un moment, lui, il a certainement foiré sa première couche aussi.
Mais voilà, sauf que c'était pas devant moi, c'était pas. Du coup, j'avais l'impression que concernant la parentalité, en fait, lui, c'était vraiment le sachant, l'expérimenté. Ça a plein de bons côtés parce que. J'ai des amis qui sont allés moult fois aux urgences pédiatriques ou à l'hôpital la nuit. Ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois parce que lui avait expérimenté plein de cas de maladies avec ses deux premiers enfants. Et donc, il connaissait les gestes, alors qu'il n'a pas du tout fait d'études de médecine. Donc, il nous a évité vraiment des moments où moi, j'aurais eu peur. Lui, il a su quoi faire. Mais effectivement, ça aussi, ça venait confirmer le fait qu'il savait et que moi, j'étais celle qui pouvait paniquer ou tâtonner ou ne pas savoir du tout.
Ouais, carrément. Alors moi, j'ai plusieurs questions qui me viennent, mais donc du coup, je vais partir sur la branche chronologique et je retiens ma question qui viendra plus tard. Quand tu es tombée enceinte, donc ce premier enfant, est-ce que le schéma dans lequel toi, tu as grandi avec cette maternité, finalement, ce don de soi de la maternité exclusif, t'es revenu dans la figure et qu'est-ce que tu as fait de ça, toi ?
Alors, pendant ma grossesse, j'ai éprouvé le besoin d'aller parler à une psy spécialisée en périnatalité parce que je ne voulais pas être ma mère comme mère. Et je ne voulais pas non plus lui laisser trop de place dans ma maternité, qui donc du coup était très attendue. Et je pressentais une intrusivité dont je ne voulais pas. Et donc j'ai eu besoin de me libérer de ces angoisses-là pendant ma grossesse. Et déjà beaucoup de parler avec mon conjoint pour décider, donc là strictement théoriquement, mais... de ce que je voulais, de ce qu'on allait faire, en fait, à l'arrivée de l'enfant. Parler pour être sûr aussi qu'on allait pouvoir faire les choses à notre manière et donc laisser le moins possible nos familles intervenir d'une manière ou d'une autre là-dedans. Et ça m'a fait du bien de pouvoir l'exprimer à ce moment-là. C'était une angoisse forte. Et comme c'était exprimé, ça a été plus facile à concrétiser à la naissance.
Et est-ce que justement tes craintes se sont concrétisées finalement ? Est-ce que tu as eu cette espèce d'intrusion, ou alors t'as justement, cette thérapie t'a permis à un moment de mettre les distances et de poser les mots et de mettre les limites autour de toi ?
Alors voilà, c'est ça. Le truc, c'est que moi, je crois que les thérapies, c'est toujours par rapport à soi. Donc moi, j'ai pris conscience de ce que je ne voulais pas et c'est moi qui place les limites. Les désirs des autres ou les envies des autres par rapport à mes enfants, je dirais, ça les regarde. C'est nous à la maison qui fixons les règles et ce qui nous permet de sentir que notre espace en fait est préservé.
Et tu disais que justement, vous aviez abordé la question de l'après, de l'arrivée de l'enfant avec ton conjoint et de comment ça allait se passer, quelles allaient être vos décisions sur l'accueil. Et c'était quoi les sujets exactement abordés ?
C'était des choses très factuelles sur le mode de garde, par exemple, qu'on souhaitait collectif, sur la conciliation du travail et de la parentalité, sur le fait de continuer d'avoir une vie sociale avec l'enfant, de l'emmener avec nous, de ne pas s'interdire de partir en week-end ou en vacances. Par exemple, pendant ma grossesse, j'ai été invitée à intervenir dans deux établissements français du Texas pour la francophonie. La francophonie, c'est le 18 mars chaque année et mon terme, c'était genre le 15 février. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai dû accepter cette invitation, je n'avais pas la date de naissance de mon enfant. Donc, évidemment, pas de possibilité d'entamer les démarches administratives de type faire un passeport pour aller aux États-Unis. Et on avait décidé qu'on irait, en fait, tous ensemble et qu'on prendrait le temps et que mon conjoint utiliserait ses jours de congé paternité pour ça. Et on a réussi à le faire en partant vraiment juste avant. Mais voilà, on avait décidé que la maternité ou la parentalité ne serait pas un frein pour différents projets. Et même que, voilà, on avait plaisir à faire un certain nombre de choses à deux. On voulait rester sur la même tendance à trois.
C'est marrant parce que tu vois, moi j'essaye de me projeter, et là vraiment c'est personnel, hein, mais à un mois postpartum, genre voyager, c'est un truc physiquement, ça aurait été compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais appréhendé, toi ?
Pas du tout. En fait, je pense que c'est mieux que je ne me sois pas projetée, sinon je n'aurais pas dit oui. Quand je revois des photos, donc on est parti... l'enfant avait 4 semaines, je revois des photos qui ont été prises dans les établissements. J'ai un ventre de grossesse encore. D'ailleurs, je me souviens d'une femme dans un supermarché aux États-Unis, je n'étais pas avec mon enfant, il était avec son papa dans un autre rayon. Et la femme m'a félicité pour ma grossesse en me demandant quand j'allais accoucher, alors que l'enfant était sorti depuis plus d'un mois. Donc physiquement, je n'étais pas du tout remise et puis j'avais accouché par césarienne, donc pas pu me remettre en mouvement trop vite. Je n'avais le droit de rien porter encore à part mon enfant, donc bien sûr pas les bagages pour partir deux semaines à l'autre bout du monde. Après, le truc, c'est que notre enfant ne faisait pas ses nuits. Alors du coup, on ne s'est pas du tout rendu compte du décalage horaire. Ça, c'était l'avantage, c'est que de toute façon, ça s'est très bien passé. On était de toute façon jet-lagués depuis la naissance. Et on a continué à ce niveau-là, c'était top. Et puis même un long voyage en avion avec un nouveau-né, finalement, c'est plus facile qu'avec des enfants de 2 ou 4 ans qui ont besoin qu'on les occupe. Là, entre les biberons et le personnel absolument aux petits soins et les gens qui s'en vont, qui s'écartent parce qu'ils ont peur que l'enfant pleure, ce qui n'a pas du tout été le cas, on était plutôt dans de bonnes conditions pour voyager. Donc, en fait, je bénis une espèce d'inconscience qui m'a fait accepter cette invitation sans savoir du tout à quoi ça allait ressembler au niveau du postpartum, parce que si j'avais réfléchi, je pense que j'aurais dit non. Le seul truc, c'est que je l'allaitais et... Quelques jours avant, j'ai dit, euh, j'ai verbalisé le fait que ça me... Je voyais que ça allait être très contraignant. J'allaitais en tirant mon lait. Et je voyais la logistique du tire-lait là-bas. Et en fait, j'ai dit à mon conjoint, là, je sens que ça me saoule, que j'en ai marre. Et à partir du moment où je l'ai verbalisé, en fait, j'ai très vite arrêté de produire du lait. Voilà, donc il y a quand même, voilà, ce voyage a eu cette conséquence-là de mettre fin à l'allaitement qui n'était de toute façon plus un moment de contact, c'était toujours mon lait, mais on était passé quasiment exclusivement au tire-lait, donc c'était moins difficile à cesser, j'imagine, que si ça avait été un moment particulier entre mon bébé et moi.
Est-ce que pour toi, c'était évident que tu aurais plusieurs enfants ?
Alors, oui. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas ça cool pour mon enfant d'être enfant unique. Et pour le coup, l'existence des deux grands frères, beaucoup plus grands et ne vivant pas avec nous, paraissait pas jouer suffisamment le rôle de compagnie, d'équilibre même entre les parents et les enfants. Donc, je me disais qu'il faudrait pas laisser cet enfant tout seul. Je m'étais jamais vue avec un seul enfant. Hein, tu vois, c'était plutôt soit pas, soit au moins deux, quoi.
Ok. Et donc, vous avez décidé de faire un deuxième enfant assez rapidement, justement. Est-ce que l'écart d'âge était une vraie question pour avoir cet effet fratrie-compagnie ?
Alors, en fait... Moi, après la naissance, j'ai fait une dépression du postpartum non diagnostiquée. Ce qui m'a laissé penser, en fait, que je ne serais pas capable d'avoir un autre enfant. Et puis, on a fini, heureusement, par en parler avec mon conjoint. Et quand notre aîné avait presque 3 ans, et là, on a décidé de faire un autre enfant. Et pareil, je suis tombée enceinte. J'ai fait une fausse couche, mais je suis tombée enceinte 2 semaines après ma fausse couche. Je ne savais même pas que c'était possible. C'est pareil. Donc, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite non plus. Mais donc, du coup, cette dépression, elle a duré 3 ans. Enfin, j'en ai pris conscience en étant enceinte de nouveau. Et je me dis qu'il s'en est fallu de peu pour qu'elle... me retiennent d'avoir un autre enfant, alors qu'en fait, c'est l'arrivée de l'autre enfant et la grossesse d'abord, qui d'une part m'a fait prendre conscience de la dépression, m'a permis d'y mettre fin et de faire en sorte de ne pas en vivre une deuxième et finalement à réparer beaucoup de choses. Donc, je me félicite au quotidien qu'on ait pris cette décision-là. Et dans l'absolu, en fait... donc mes enfants ont presque 4 ans d'écart, ce qui correspond à peu près à l'écart que j'ai moi avec ma jeune sœur. Et sur le papier, j'aurais bien imaginé des écarts plus petit. Mais j'ai pas réussi à remonter à la surface en fait avant ça, dans cette espèce de tsunami de la naissance. Et donc il a fallu, vraiment remonter à la surface pour envisager la suite. Et ça a pris du temps.
Elle se manifestait comment, ta dépression postpartum ? Et je veux dire, elle a été non diagnostiquée, donc c'est quelque chose dont tu ne parlais pas de ce mal-être ?
Non, parce que j'étais incapable de savoir quel mot poser là-dessus. Et alors, je t'ai dit que j'étais allée voir une psy pendant ma grossesse, mais ça, c'est aussi un truc... Je viens d'un milieu familial dans lequel la santé mentale n'existe pas. Ce n'est pas un sujet. On ne doit pas avoir de problème à ce niveau-là, sinon c'est qu'on est faible et ou fou. Et il y a l'idée qu'on a été élevé pour n'appartenir à aucune de ces deux catégories. C'est aussi... moi, je me suis affranchie de mon modèle d'éducation par rapport à ça. Mais malgré tout, ça ne reste pas simple d'admettre... une vulnérabilité, des faiblesses. Je trouve que la faiblesse en soi, c'est pas du tout problématique. Et donc, moi, tout le monde me disait que tout allait bien. J'avais un bébé en bonne santé, j'étais factuellement en bonne santé. Je me disais que là, moi, je n'avais pas le droit d'exprimer un quelconque mal-être, y compris avec mon conjoint. Donc lui, il voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais j'étais pas capable de mettre le moindre mot là-dessus. Et comme lui, comme moi d'ailleurs, on n'avait jamais entendu parler de dépression du postpartum, on avait entendu parler du baby blues, mais pas de plus que ça. On était en incapacité, moi, de demander de l'aide, lui, de m'en proposer vis-à-vis d'un tiers, parce que c'était un truc qui n'existait pas, quoi. Et moi, je pensais que, en fait, je venais de comprendre, d'entrer dans le secret le mieux gardé depuis la nuit des temps entre les femmes, celui de la maternité. J'ai pensé que tout le monde ressentait ça, en fait, le fait de se sentir vidé de toute énergie, de toute joie. Donc j'étais là, présente, mais mentalement complètement absente. Il m'est arrivé de me dire aussi que je pourrais vraiment disparaître et que ça ne changerait rien à la bonne entente qu'il y avait entre mon bébé et son père. Et j'ai cru que vraiment, il n'y avait rien à dire, parce que c'était ce que toutes les mères faisaient, sourire pour la photo, avoir un bébé qui va bien et puis n'avoir plus goût à rien, quoi. C'est en étant enceinte de nouveau et en sentant l'énergie revenir que je me suis dit, mais non, mais ce que j'ai vécu n'était pas normal, en tout cas pas définitif. Ça doit porter un nom. J'ai cherché le nom que ça pouvait porter, et ensuite j'ai sorti le haut-parleur pour dire autour de moi, il va falloir m'aider pour que ça ne se reproduise pas, quoi.
Carrément. Tu as un métier quand même qui t'impose, entre guillemets, hein, vraiment, c'est parce que je trouve pas l'autre mot, mais qui en tout cas sort de tes tripes, qui est assez créatif. Est-ce que cette dépression postpartum-là, alors qu'il n'y avait pas les mots dessus, s'est ressentie dans ton travail à ce moment-là ?
Dès que je suis sortie de la maternité, au bout de quelques jours, je me suis remise à l'ordi. J'ai écrit un roman qui s'appelle Linea Nigra, du nom de cette ligne brune qu'une femme sur deux a à la verticale du ventre pendant sa grossesse, que moi j'ai eue pendant mes grossesses. Et j'ai écrit parce que j'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer. Mon accouchement s'était passé extrêmement rapidement. J'avais besoin de consigner, de laisser une trace des choses, de noter les petits gestes, les petits détails. J'avais besoin de ça pour dépasser l'accouchement. J'avais besoin de ça pour accepter le fait que j'étais en train de devenir mère, même si j'attendais toujours l'arrivée de l'instinct maternel qui ne m'avait pas été livré à la maternité avec la valisette d'échantillons. Donc là, clairement, écrire, c'était à ce moment-là, je vais employer un mot fort, mais je l'ai ressenti comme ça, écrire, c'était pour survivre à ce moment-là, ce livre-là, au sortir de la maternité. Alors maintenant, quand j'en relis des passages en fonction des demandes de relire, par exemple, je me rends bien compte que c'est aussi le roman d'une dépression du postpartum. Mais évidemment, à ce moment-là, comme ça n'était pas du tout identifié, j'ai quand même mis beaucoup de lumière dans ce texte. Mais il y en a finalement plus dans le texte qu'il n'y en avait en moi à ce moment-là. Donc oui, je ne peux écrire qu'avec ce que je suis, donc mes textes aussi traduisent ou trahissent les états d'esprit par lesquels je passe en fonction des phases de ma vie, quoi.
Parce que tu écris justement quand même beaucoup sur la maternité et sur ce qui se passe. Enfin, la laisser en l'occurrence, mais aussi dans tout ce qui va être autour dans la fiction. C'est un sujet qui t'animait avant, ou c'est vraiment cette entrée dans la maternité qui t'a donné envie de prendre la parole sur ce sujet et d'en parler ?
Ça m'animait avant. Ça m'anime, ça m'intéresse depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et que je me suis intéressée aux études de sage-femme, au métier de sage-femme globalement, en découvrant par l'intermédiaire de ma correspondante allemande qui faisait des études de sage-femme en Allemagne, en découvrant qu'il y avait des approches radicalement différentes d'un pays à l'autre. De là, j'ai commencé à lire les livres de Martin Winkler, et j'ai commencé à ce moment-là à ressentir une très vive colère pour, au sens large, le sujet des violences obstétricales. Donc c'est par ces questions-là de droit des femmes à disposer de leur corps au moment de l'accouchement, de colère sur ces questions-là et de militantisme que j'ai abordé à l'écrit le sujet de la maternité, avant d'aller dans des dimensions un peu plus larges de transmission, d'héritage immatérielle entre les générations. Mais ma première approche de la maternité par la fiction tournait autour vraiment du corps et de la maltraitance médicale.
Tu parlais de l'arrivée de ton deuxième enfant, qui a changé quand même beaucoup de choses dans ta vie. Qu'est-ce que tu as mis en place justement ? Donc tu tombes enceinte, c'est ce que tu as. Je reprends ce que tu dis. Tu te rends bien compte que cette nouvelle énergie est positive et que ce que tu vivais depuis déjà 3 ans était très négatif. À ce moment-là, tu prends la parole, tu en parles autour de toi, mais qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour aller mieux et pour sortir la tête de l'eau ?
C'est-à-dire que, en fait, j'ai dit à mon conjoint, ma sage-femme, la sage-femme libérale qui me suivait, et à moi-même, qu'il faudrait être attentif à différents signaux, notamment ma fatigue, et le fait de l'avoir dit, de savoir que si je disais « je suis fatiguée », ça allait être entendu différemment que quand j'avais pu le dire la première fois. Ça, déjà, c'était pour moi très rassurant. J'avais aussi été capable de dire que pour aller bien, j'ai besoin d'écrire et que donc, il faudrait me laisser la possibilité de le faire, des espaces pour ça. Et puis, c'était aussi concrètement s'organiser au niveau de la famille pour que je puisse avoir du temps pour aller voir une sage-femme acupunctrice pour travailler sur les énergies post-accouchement, recevoir un soin Rebozo pour resserrer mon bassin. Concrètement, je suis même partie une semaine, quand mon enfant avait 2 mois, dans un centre de thalassothérapie à proximité de la maison, donc avec l'idée que je pouvais rentrer, avec mon mari qui m'avait demandé de ne pas le faire, de ne le faire qu'en cas de... Vraiment, si j'arrivais pas à tenir. Donc là, j'ai laissé les 2 enfants et j'ai dormi des nuits de 8 heures d'affilée. Et j'ai passé une semaine à être massée, à prendre soin de mon corps. Et je suis rentrée dans un état d'esprit radicalement différent. C'est-à-dire que la fatigue avait disparu avec cette semaine-là et j'étais prête à être complètement là pour ma famille. C'est cette semaine-là aussi qui m'a permis d'achever de me remettre de mon deuxième accouchement qui était de nouveau une césarienne, d'accepter de faire la paix aussi psychologiquement avec ça, avec ces 2 césariennes alors que je m'étais préparée la première fois en maison de naissance et la deuxième fois pour une voix basse malgré l'utérus cicatriciel. Donc dans les 2 cas, il y avait quand même un écart entre l'accouchement réel et l'accouchement imaginé, j'avais pas volontairement pas rêvé parce que, mais imaginé en tout cas. Voilà, on s'est organisé. Et là, pour le coup, le soutien de mon conjoint a été déterminant. Le soutien de mon conjoint et le fait que moi, je n'hésite pas du tout à dire ça va pas. Il faut que je puisse souffler d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui m'a permis moi de pas vivre un seul épisode dépressif finalement après les montagnes russes hormonales directement post-accouchement. Et parce que je savais que j'avais ce garde-fou à la maison de mon conjoint et puis la sage-femme aussi qui prenait des nouvelles et qui savait qu'il y avait un terrain potentiellement propice à une autre dépression.
En fait, ce que moi j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as pu profiter d'une convalescence qui est clairement nécessaire à l'arrivée d'un enfant, tant pour le corps que pour l'esprit, parce que quand même, c'est des épreuves, des épreuves physiques, des épreuves psychologiques, et en fait, je pense qu'on aurait toutes besoin de ce genre de convalescence à un moment, puisque en fait, mais avec une césarienne qui est une intervention médicale, quand on se fait opérer de quoi que ce soit, on a un temps de convalescence qui n'est pas donné avec la maternité, parce que la mère est censée s'occuper à 100% de son enfant et est censée ne plus tellement exister au détriment de son enfant. Ce qui me permet de faire un petit lien avec l'essai, donc tu en parlais au départ, que tu as écrit, qui s'appelle « Qui s'occupe des enfants ? Repenser la parentalité traditionnelle ». Quand tu parles de parentalité traditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je voudrais juste faire un tout petit rebond sur ce qu'on s'est dit juste avant.
Fais donc.
Parce que cette convalescence, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, c'est quand même un privilège immense parce que partir une semaine, ça veut dire avoir les moyens. Voilà, je me suis payé ma semaine de thalasso, mais j'avais aussi les moyens financiers, mais aussi les moyens effectivement logistiques qu'à la maison, mon conjoint puisse s'occuper de deux enfants avec deux rythmes différents, un nourrisson, un qui était à l'école, etc. Donc ça, je suis d'accord qu'il faudrait le permettre à tout le monde. Il y a plein de familles qui ont des problématiques d'organisation qui ne permettent même pas de l'envisager. Donc là, je suis bien consciente que c'est un vrai privilège. Ensuite, concernant la parentalité traditionnelle, c'est le modèle pour lequel les gens manifestent dans la rue, un papa, une maman et des enfants, avec des rôles dans ces cas-là très, très biaisés par le genre. Par exemple, le papa qui va travailler et la maman qui reste à la maison pour s'occuper des enfants ou qui réduit par exemple son temps de travail pour s'en occuper principalement. Ça, c'est quand même le modèle de parentalité le plus classique. Et c'est ça que je propose de repenser. Donc, j'ai décidé de passer en revue toutes les composantes de la parentalité, de les passer au prisme du genre et de voir ce qu'il y a dans ce qui est actuellement accompli par les mères, qui me demandait si ça pourrait être accompli par les pères, si ça ne l'est pas déjà ailleurs géographiquement ou si ça ne l'a pas été ailleurs dans le temps, et de voir ce qui est possible, non pas pour dire il faut changer tout, mais pour que quand on fait les choses qu'on fait au sein de sa famille, on les fasse en conscience, en sachant quelles sont les options possibles et que les choix soient faits de façon éclairée.
Quel a été le point de départ de cette réflexion-là ? Pourquoi tu as eu envie de repenser justement les modèles traditionnels, enfin, en tout cas traditionnels dans un monde occidental et là où on vit nous ?
En fait, quand on a eu notre deuxième enfant, on a décidé avec mon mari que moi, je continuerais à travailler à temps plein et que lui deviendrait père au foyer à durée indéterminée. Mmh. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais en tout cas, tant que nos enfants seraient jeunes et auraient besoin de beaucoup d'attention et de présence, eh bien, ce serait son occupation à lui. Et en fait, ça marche très bien. Enfin, on est contents l'un et l'autre. On a vraiment décidé ça conjointement. Et on s'est rendu compte que ça suscitait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, que ça se heurte parfois à différentes choses, et c'est ça qui m'a donné envie de théoriser un peu en partant de mon expérience familiale personnelle. J'ai essayé d'ouvrir le spectre pour voir ce qu'il y a de vraiment compliqué dans le fait, pas forcément d'inverser les rôles, mais juste de faire autrement et de s'affranchir de ce modèle traditionnel.
Qu'est-ce qui faisait réagir à l'annonce de ce choix de père au foyer ? Qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui était le plus... qu'est-ce qui les trigger, ces gens ? Pourquoi ils réagissent ?
Alors, en fait, on soupçonne mon conjoint d'avoir choisi une solution ultra confortable où, globalement, il ne fait pas grand-chose de ses journées. Et moi, on me renvoie le fait que je devrais être plus présente auprès de mes enfants. Donc, moi, je suis culpabilisée par la société, au sens large, de choisir ma carrière plutôt que de la mettre en sommeil ou de la ralentir pour mes enfants. Et mon conjoint, lui, en fait, il souffre, je pense que je peux le dire comme ça, d'occuper une fonction qui n'existe pas. Administrativement, c'est pas un métier. Hein. Influenceur, c'est un métier, mais père au foyer ou mère au foyer, ça n'est pas un métier au regard de l'état civil. Donc, un métier qui n'existe pas, qui n'est pas du tout valorisé, dont on a l'impression qu'il ne compte pas. C'est hyper ingrat, parce que les tâches domestiques, globalement, on les remarque quand elles ne sont pas faites ou mal faites. Sinon, il y a énormément de travail invisible. Les femmes connaissent ça depuis des années et verbalise en fait des revendications par rapport à ça depuis en France les années 70. Et lui, il découvre tout ça. Et alors, ce qu'on n'arrive déjà pas trop à entendre de la part d'une femme depuis plus de 50 ans, bah, on ne l'entend pas du tout depuis de la part d'un homme. Et puis, on se dit que oui, qu'en fait, lui, c'est une planque, quoi. Une planque qui, en plus, pourrait lui ramollir le cerveau. C'est déjà arrivé, ce genre de questions. Et c'est arrivé aussi à d'autres pères que j'ai fait parler pour le livre qui s'occupe des enfants. Des gens qui s'inquiètent de la santé mentale de ceux qui restent avec des enfants, comme si c'était forcément, comme s'il y avait forcément moins d'émulation intellectuelle que de parler avec ses collègues à la machine à café, quoi.
C'est marrant parce qu'on ne s'inquiète quand même pas de la santé mentale des femmes quand elles restent au foyer. Pourquoi on s'inquiète de celle des hommes ?
Mais en fait, c'est ça que je trouve, c'est même finalement assez injuste. Enfin bon, si les choses étaient justes, on le saurait, et puis... Il n'y aurait pas ni tous ces livres, ni tous ces podcasts. Mais en fait, le discours de l'épanouissement qui arrive aux femmes par la maternité, il est encore très présent. Et on n'arrive pas à concevoir qu'un père puisse s'épanouir dans la paternité. Je trouve ça assez fou. On cherche une explication, en fait, à ça dans son parcours biographique. Sinon, on ne voit pas pourquoi il pourrait juste... trouver que sa place la plus juste est auprès de nos jeunes enfants, sachant que c'est aussi, j'allais dire, un travail d'équipe, parce que moi, j'ai pas mal de déplacements, donc je peux aussi partir très sereinement. C'est aussi à moi qu'il rend service, pas seulement aux enfants, je veux dire, il s'occupe finalement aussi de moi, en me permettant de travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais bah, visiblement, ça ne passe pas pour quelque chose d'assez épanouissant. C'est comme si dans tout ça, il s'oubliait forcément, et je ne pense pas que ce soit le cas.
Puis il y a peut-être aussi cette notion de c'est toi qui ramène l'argent à la maison, du coup, et de, comment dire, émasculation, finalement, parce que le rôle de l'homme serait d'aller à la chasse et de ramener le gibier pour nourrir son foyer, alors qu'en fait, dans ton modèle, c'est toi qui le fais. Qu'est-ce que tu as pu noter sur ce sujet-là ?
Alors ça, ça m'a obligée à travailler sur le mythe de la virilité, qui donc est un mythe et donc peut-être déconstruit puisqu'il a été construit. Moi, j'ai dû accepter que l'argent que je le gagne comme je le gagne parce que effectivement, mon conjoint aussi me permet de le gagner, en me libérant du temps, par exemple. Ça veut dire aussi que voilà, il y a une vraie notion de partage. Là où j'ai été très surprise, c'est que il m'est beaucoup revenu le fait que l'admiration que d'autres femmes notamment portent à leur conjoint est quand même assez fortement connectée à leur identité professionnelle et donc à leur salaire. Moi, c'est pas mon cas. Mon admiration pour mon conjoint n'a pas bouger entre le moment où je l'ai rencontré, où il gagnait mieux sa vie que moi, et le moment où il s'occupe de nos enfants et que c'est moi qui gagne notre vie à tous. Mais ça, c'est vraiment assez général, parce que il y a aussi des chiffres, hein, j'ai trouvé des études qui prouvent qu'à partir du moment où dans un couple, l'homme, parce que dans trois couples hétérosexuels sur quatre, c'est l'homme qui gagne plus que la femme. Si la femme gagne plus à la rencontre, c'est différent, dès le départ, je veux dire. Mais s'il y a un changement en cours de route pour le couple, ça pose des problèmes au couple. Alors, on se rend compte que les femmes systématiquement minimisent leur salaire, tandis que les hommes l'exagèrent. Et puis, encore plus prosaïquement, eh bien, les hommes vont chez le sexologue, parce qu'ils ont des problèmes de puissance sexuelle. Et ça, les sexologues vraiment le confirment. Les hommes vivent mal le fait que leur conjointe se mette à gagner plus qu'eux, et ça se traduit très directement sous la couette. Mais parce que en fait, tout le monde est biberonné au mythe de la virilité, et qu'il y a l'idée qu'on n'est pas un homme si on ne gagne pas plein d'argent et si on ne paye pas l'addition au restaurant. À partir du moment où on se dit que ce n'est pas un souci, il y a beaucoup de choses qui peuvent être beaucoup plus faciles à vivre, me semble-t-il.
Puis autour de la sexualité, il y a aussi cette vision très archaïque hein, de, en fait, la femme doit se soumettre à l'homme et avoir ce droit de cuissage parce que l'homme vient subvenir aux besoins et que finalement, elle est là pour s'occuper des enfants, oui, s'occuper de la maison, mais aussi répondre à des besoins. Et vous le voyez pas, mais je mets des gros guillemets aux besoins sexuels qui n'existent pas, hein, mais qui doit être là pour subvenir aux besoins d'un homme qui a justement pas le choix puisque ce n'est qu'un homme qui doit répondre à ses désirs et à ses pulsions sexuelles. Et il y a cette image-là aussi de la femme qui a ce... Ben, on parle de devoir conjugal, tu vois, et c'est encore dans les imaginaires collectifs, il y a encore beaucoup de femmes qui finalement se forcent dans la sexualité parce qu'elles pensent qu'elles doivent le faire, que c'est de leur devoir et que c'est ce dont on attend d'elles. Et donc du coup, quand la situation finalement au sein du couple hétérosexuel est que la femme gagne plus d'argent, ben, il y a moins ce rapport-là, parce qu'en fait, la femme a peut-être moins ce côté de redevabilité auprès de l'homme. Et est-ce que l'homme se sent un jour redevable auprès de sa femme de subvenir à ses besoins? Je ne sais pas, mais est-ce que tu as pu noter ce genre de choses, toi?
Bah, globalement, ni chez moi, ni dans les couples dont j'ai interrogé l'homme s'occupant entièrement ou principalement des enfants, il ne se sent entretenu. C'est ça qu'on a l'habitude de dire pour les femmes, en fait. Il n'y a pas la notion de se sentir entretenu. Il y a vraiment, dans les couples, l'idée qu'il y a un moment où il peut y avoir monsieur qui a gagné plus d'argent ou qui a gagné tout l'argent. Et à d'autres moments, c'est madame. Mais ça veut dire que c'est des couples qui dialoguent beaucoup. Où du coup, oui, l'idée de partage s'envisage sur le long terme, avec le couple et la famille comme quelque chose de mouvant et de vivant qui évolue au rythme de la vie. Et sur la notion de devoir conjugal, en fait, ce que je trouve terrible, c'est que, justement, on a parlé de grossesse et d'accouchement, c'est quelque chose qui est encore rappelé beaucoup après un accouchement par les médecins. Enfin, globalement... il y a l'idée que si au bout de 6 mois on n'a pas repris les relations sexuelles, et par relations sexuelles on entend toujours la pénétration, il y a aussi l'idée d'une sexualité qui est très convenue,
qui est normée finalement.
Oui, très normée.
Ouais.
Alors que pour moi, ce qui devrait indiquer le moment de la reprise des rapports sexuels, c'est l'envie de part et d'autre, et puis le fait de se sentir prêt. Enfin, en général, ça va avec l'envie. Et on en discute, mais de faire peser aux femmes le poids d'une culpabilité, d'un possible adultère, si elles ne reprennent pas les relations intimes avec leur conjoint alors qu'elles sont pas du tout en capacité de le faire, je trouve que c'est absolument horrible. Mais ça, dans à peu près tous les livres qui parlent de naissance au sens large, il y a comme ça un chiffre, enfin, une date, un terme à partir duquel il convient de s'inquiéter, quoi.
Mais ça, il y en a dans Avec ou sans maternité. Enfin, tu vois, les magazines féminins où mon couple se porte bien si on fait l'amour 3 fois par semaine. Enfin, tu vois, il y a déjà des normes dès le départ qui sont pas forcément déterminées par la maternité. La maternité amène une question de sexualité qui doit être reprise à un moment comme la reprise du travail, finalement, qui est une étape presque obligatoire, alors qu'en fait, rien n'est obligatoire. Mais j'ai l'impression que cette norme autour de la sexualité, elle est... Enfin... Elle pèse sur les épaules des femmes depuis le moment où en fait elles sont entre guillemets en capacité, ou à partir du moment où elles commencent leur vie sexuelle en fait, qu'elle se soit de leur plein gré ou pas, parce que il y a aussi tout ce poids de l'histoire de en fait la vie sexuelle des femmes, c'était pas un choix avant pour les femmes de la débuter à ce moment-là, c'est qu'elles étaient obligées par le mariage. Donc en fait il y a vraiment cette donnée d'émancipation aussi de prendre le pouvoir sur son corps et sur son désir et de décider qui peut poser problème dans un système qui est dit patriarcal, dans un système où l'homme est censé être au-dessus de la femme dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, aussi bien symboliquement que physiquement. Il y a vraiment ces questions-là qui se posent. Et en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, dans les couples justement qui ont décidé de d'adopter un autre mode de vie, c'est aussi cette déconstruction du patriarcat au sein du couple. Mais c'est pas juste... après, peut-être, je ne sais pas à quel moment ça arrive dans la vie d'un homme qui se déconstruit. Est-ce que c'est amené par une femme ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait tout seul? Mais dans tous les cas, il y a ce et je fais le geste, hein, mais il y a un moment, cet équilibre qui se crée aussi. Ce niveau vraiment d'égalité et pas une égalité, factice. Qu'on pourrait cacher derrière une égalité de salaire, par exemple, dans l'emploi, enfin, ce genre de choses. Il y a une vraie égalité au sein des couples, finalement, qui font des choix différents. On n'est pas obligé d'en passer par rester au foyer non plus, parce qu'en fait, c'est une question que je voulais te poser aussi, parce qu'on n'est pas obligé de rester au foyer, qu'il y ait un des parents, quel qu'il soit, restant au foyer. Il y a aussi d'autres aménagements qui sont possibles. Et là, pour le coup, c'est une expérience personnelle qui parle, où en fait... nous, dans notre couple, on travaille tous les deux, mais on a des aménagements tous les deux, c'est-à-dire qu'on travaille moins tous les deux pour pouvoir subvenir à la réalité de notre enfant qui grandit, donc qui en a peut-être un peu moins besoin. Mais en tout cas, c'était vrai, très très vrai au début de sa vie, où vraiment le choix était fait ensemble et pas juste un qui ne travaille plus et l'autre qui travaille à temps plein. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est une question de communication et de désir profond de l'être humain dans sa vision de la parentalité, mais de sa vie professionnelle aussi.
Oui, effectivement, on n'est pas obligé d'aller à quelque chose d'aussi, je ne sais pas si on doit dire extrême ou radical. Dans les faits, les chiffres montrent bien que dans la plupart des couples, des couples hétéros, la personne qui aménage son temps de travail ou qui le réduit ou qui passe à temps... un temps partiel ou qui prend un congé parental, c'est la mère. Et effectivement, il y a d'autres possibilités. Et on peut aussi se dire qu'on est sur des cycles, qu'en fonction de cycles, l'un va penser davantage à sa carrière et qu'ensuite on inverse. Ou alors, comme toi tu l'as dit, que c'est de façon... conjointe, en fait, qu'on adapte son temps de travail. Il y a plein de choses, mais effectivement, il faut commencer par en parler et pas se dire, ok, ben en fait, c'est forcément moi, la mère, qui vais devoir être la variable d'ajustement.
Carrément. Et il y a aussi ce côté, en fait, les femmes arrêtent de travailler plus facilement à la naissance des enfants parce qu'il y a cette inégalité salariale aussi qui est réelle. Parce que du coup, dans le couple, si, comme les hommes gagnent en moyenne beaucoup plus d'argent que les femmes, enlever la partie salariale de l'homme a plus d'impact qu'enlever la partie salariale de la femme. Et ça, c'est une réalité dont on se sert aussi comme excuse. Mais si les femmes avaient la possibilité aussi d'évoluer professionnellement au lieu de s'arrêter de travailler. Et là, je parle vraiment quand c'est une question, quand c'est pas un choix, quand c'est vraiment on le fait parce que c'est moi qui gagne moins d'argent. Si la femme avait la possibilité de continuer son emploi si elle le désirait, elle aurait cette possibilité d'évolution et les salaires pourraient être équilibrés. Mais en fait, si il n'y avait pas ces écarts salariales-là, si les inégalités entre les femmes et les hommes n'étaient pas réelles, les questions de qui s'occupe des enfants, elles seraient vraiment plus posées au sein des couples. Parce qu'en fait, moi, finalement, j'ai l'impression que c'est une question qui ne se pose même pas.
Oui, oui. Et résultat, donc les égalités salariales dont tu parles, tout le monde en est à peu près conscient maintenant, je pense. Mais résultat, la parentalité, elle bénéficie à la carrière des pères durablement, et elle pénalise durablement la carrière des mères. Donc, on est dans un cercle vicieux pour l'instant, dont je ne vois pas d'issue possible, parce que même le congé paternité sa durée a été allongée. Mais en fait, il n'y a pas d'obligation à prendre ces jours-là. Et puis, on mesure bien ce décalage-là lorsqu'il y a des séparations, lorsque les couples se séparent, et on voit bien que au sein du couple, la femme s'appauvrit finalement au sein du couple hétéropatriarcal, et résultat, son niveau de vie est très très dégradé quand il y a une séparation, alors que globalement pour l'homme ça fait pas beaucoup de différence, et l'homme très vite retrouve son niveau de vie de quand il était en couple, alors que la plupart des femmes mettent des années avant de le retrouver. Certaines ne le retrouvent jamais et certaines tombent dans une très, très grande pauvreté.
Oui, parce qu'en plus, elles deviennent mères célibataires puisque dans la séparation, le père ne fait pas sa, ne fait toujours pas sa part non plus puisque c'est pas... Enfin, il y a, je sais pas si tu as les chiffres justement de tout ce qui est autour des gardes alternées, mais vraiment égalitaires dans les séparations.
Non, je sais que effectivement la garde est plus souvent accordée à la mère. Et globalement, il semble que ça arrange tout le monde parce que les pères qui demandent la garde généralement l'obtiennent. C'est-à-dire que ces hommes qu'on a vus se grimper sur des grues, par exemple, en disant qu'ils étaient privés de la garde de leurs enfants, c'est généralement parce qu'il y avait une décision de justice les privant de cette garde-là. Donc, il y avait une bonne raison que la garde ne leur soit pas confiée. Et c'est pas du tout des martyrs de la situation. Donc, globalement, oui, c'est les femmes qui gardent les enfants. Et comme tu le disais, c'est aussi ce qui les pénalise. Et puis, quand il y a une séparation, on sait que on a constaté que les femmes doivent racheter beaucoup plus de choses parce que en couple, c'est pareil, les hommes n'achètent pas les mêmes choses. Les hommes vont faire des dépenses plus conséquentes pour des choses qui se voient socialement. C'est ce que Titu Lecoq appelle la théorie du pot de yaourt. Et la mère achète ce qui est consommable, ce qui ne se voit pas, mais qui coûte quand même de l'argent. Et donc, à la séparation, elle doit racheter une machine à laver, une voiture, un ordinateur... des grosses choses avec lesquelles l'homme est parti parce que il y avait son nom sur les factures finalement. Et donc ça creuse encore plus l'écart entre les deux ménages qui sont issus du ménage qui a splitté, quoi.
C'est vrai que la séparation est une vraie question parce que finalement, les femmes qui s'enferment dans des situations de précarité parce qu'elles arrêtent de travailler, parce que tout ça, en fait, n'osent plus partir au moment où elles en auraient besoin aussi. Et dans les cas de violences familiales, par exemple, de violences faites aux femmes, c'est dramatique, ce genre de situation.
Ben oui, la dépendance financière, effectivement, fait le lit des violences conjugales dans les foyers où il y a ce terrain-là, évidemment. Ouais.
Tes enfants ont quel âge, dis-moi ?
Ils ont 4 ans et 8 ans.
Qu'est-ce que vous imaginez dans la suite de votre construction familiale ? Est-ce que ton conjoint aurait envie de reprendre un travail ou pas ? Et quelle est la trajectoire que vous envisagez ?
Je pense que... qu'à mesure que le temps va passer et que les enfants seront moins finalement demandeurs de présence, d'encadrement d'activité, ce genre de choses. Mon conjoint va reprendre une activité, mais qui ne sera pas forcément avant. Il dirigeait une entreprise de la communication. Il ne sera pas forcément dans le même domaine. Je pense que l'enseignement principal de tout ça, c'est l'envie de transmettre et que c'est probablement dans cette direction-là qu'il se dirigera ou peut-être en restant auprès d'enfants d'ailleurs, ça j'en sais rien. En tout cas, c'est sûr que cette étape de parentalité avec beaucoup de présence le transforme et donc transforme aussi son rapport au travail. C'est-à-dire que s'il revient sur le marché du travail, il n'aura plus le même regard et donc il ne voudra plus faire les mêmes choses. Ça me paraît évident.
Ouais. Tu acceptes moins peut-être les contraintes d'horaire et mettre en priorité plus facilement ta vie de famille quand tu as vécu justement toute cette importance-là. Mais c'est ce qui se ressent aussi de toute façon quand... une personne au sein du couple, de manière générale, arrête de travailler à l'arrivée des enfants. Il est quand même assez fréquent finalement qu'il y ait un changement de carrière et un changement d'orientation, qu'on n'ait plus envie, qu'on soit une femme ou un homme hein, d'ailleurs, de ce qu'on avait avant parce qu'on a goûté à autre chose. C'est très très courant finalement.
Oui, je pense que la parentalité, ça fait quand même partie des très grands chocs de chaque existence. Donc c'est assez logique qu'on en soit changé et pas incohérent que ça nous change dans notre rapport au travail, bien sûr.
Carrément. Est-ce que tu vas continuer à écrire sur les sujets parentalité, maternité ?
Il y a des jours où je me dis que j'ai abordé la question par tous les angles qui m'intéressaient et puis régulièrement en fait je me dis j'ai encore des choses à dire donc J'aurais probablement encore des livres à écrire sur le sujet, aussi parce que je connais la prime enfance, mais je vais découvrir d'autres choses à mesure que mes enfants vont grandir. Et je vais me découvrir encore autrement comme mère d'enfants plus grands. Donc, c'est toujours enfin, l'encrier se remplit éternellement, finalement.
Carrément, je pense qu'on en apprend. Ça, c'était une phrase de ma mère. On en apprend tous les jours et dans quelques domaines que ce soit. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et d'autant plus en parentalité où on croit que on a tout vu, on a survécu à tout. Et puis en fait, non, les enfants sont pleins de surprises et nous apprennent encore d'autres choses. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sophie, pour cet échange. Je vais rappeler le titre de ton essai qui est sorti en septembre, qui s'appelle Qui s'occupe des enfants? Repenser la parentalité traditionnelle aux éditions Les Pérégrines. On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, on est d'accord.
Exactement.
Est-ce que t'as d'autres actus, t'as des choses à nous annoncer autour de tes parutions à venir?
Il y aura pas mal d'ouvrages jeunesse en 2024, mais je vais en fait, il y aura deux bandes dessinées qui vont s'intéresser à la grossesse au sens très large et une fois de plus au droit des femmes à disposer de leur corps pendant cette période particulière et au droit des femmes à décider
Ah bah dis donc, on a
sur la
hâte.
naissance.
Trop
Voilà,
bien.
en
Mais en tout
bande
cas,
dessinée.
merci beaucoup pour cet échange et pour tout ton travail, parce que je pense qu'il est vraiment nécessaire, utile, qu'on prenne la parole sur ces sujets-là. Et tu le fais admirablement bien, donc bravo pour tout ça. Si jamais les auditeurs ou auditrices veulent échanger avec toi après l'écoute de cet épisode, ça se passe par où?
Eh bien, sur Instagram ou avec mon site ou mon blog.
Trop bien, bah, je te remercie beaucoup. Et puis à bientôt, Sophie.
Merci beaucoup, Élie. À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @Élise-du-bas Prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie, Mathilde, pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.